La semaine dernière, l'Assemblée nationale a jugé recevable le projet du budget 2019, estimé en recettes et en dépenses à plus de 6 milliards de dollars américains. Selon le Premier ministre, ce budget, connaît une régression de 0,01% par rapport au budget de l'exercice 2018, justifiée par la baisse substantielle des recettes extérieures et celle du budget annexe. Quelle lecture faire de ce projet de budget? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Honorable Chris Mengoy. Bonsoir. Honorable Chris Mengoy.
Bonsoir, je vous écoute.
Merci, vous êtes député national et communicateur de la majorité présidentielle et aussi secrétaire général en charge de la politique du parti RUDEC. Éric Chikouma, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, analyste économique, directeur général du média en ligne Zoomeco. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Paul Mouindo. Il est député national de l'opposition et cadre du parti politique RCD-KML. Il est président de la commission dialogue paix et démocratie au sein de l'Union des jeunes parlementaires africains. Honorable Paul Mouindo, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans le sommaire, l'Assemblée nationale a jugé recevable le projet de budget 2019, estimé en recettes et en dépenses à plus de 6 milliards de dollars américains. Répondant aux préoccupations soulevées par les députés nationaux sur la modicité de ce budget la semaine dernière, le Premier ministre a reconnu que ce budget est faible au regard du potentiel fiscal de la RDC. Pour lui, plusieurs réformes ont été entreprises afin de maximiser les recettes de l'État. Selon lui, la mise en œuvre du nouveau code minier congolais a même déjà produit ses effets en doublant de 1 à 2 milliards les recettes minières du pays. Bruno Tshibala est au micro de Michel Kifin Dangoy.
Le projet de loi de finances de l'exercice 2019 s'élabore dans un contexte caractérisé notamment par les faits ci-après. Sur le plan politique et sécuritaire, l'organisation imminente des élections présidentielles, législatives et provinciales, la persistance de foyers de tension dans l'Ituri et le Kassai, ainsi que la résurgence des groupes armés dans le Nord Kivu. Sur le plan économique, financier et social, la stabilité du cadre macroéconomique attestée par le ralentissement de la dépréciation de la monnaie nationale et la décélération du rythme des formations de prix intérieurs, l'entrée en vigueur du code minier révisé, le bon comportement des cours des produits miniers et pétroliers, ainsi la configuration des recettes s'articule de la manière suivante. Recettes du budget général, un taux d'accroissement de 7,6%. Recettes des budgets annexes, une régression de 81,5%.
Voilà, honorable Paul Mouindo, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique RCD-KML, également président de la commission Dialogue, Paix et Démocratie au sein de l'Union des jeunes parlementaires africains. Comment vous analysez ce projet de budget?
Oui, vous savez, le projet de budget tel que reçu au Parlement, tout d'abord je voudrais adresser un message de salutation à toute la population qui nous suit à ce moment et un regard particulier aux enseignants et élèves de Béni qui jusqu'à présent ne sont pas entrés, ne sont pas d'étudier. Donc nous continuons à en appeler à un regard très sérieux des autorités nationales par rapport à cela. Le budget national et les projets du budget tel que présenté au niveau du Parlement, c'est vraiment une sorte d'insulte par rapport à la nation, à la dimension de notre pays. Et vous savez, c'est d'abord un budget qui, par rapport à tout ce que nous avions attendu, lorsque je me rappelle bien le discours très falamineux du Premier ministre qui était passé au Parlement, qui nous faisait voir des rêves, du genre il va transformer l'économie congolaise, il va s'attaquer à la corruption, il va doubler les recettes. Mais ce qui est drôle, ce qui est décevant, ce qui n'est pas acceptable, c'est de voir que ce projet de budget 2018 est un projet à régression. Ça veut dire nous étions à près de 6 milliards au budget passé, mais là nous sommes presque à 5,9. Donc lorsqu'on essaie de voir à terme des taux, il y a un taux de régression à terme du budget général de 0,01%, ce qui n'est pas acceptable. Nous avons au niveau du Parlement tout fait pour doter, pour donner, n'est-ce pas, au gouvernement, la loi sur les codes miniers que nous avions hier révisé. Cette loi devrait, n'est-ce pas, avoir des incidences totalement significatives par rapport au budget actuel. Mais nous avons constaté que...
Mais vous avez suivi le Premier ministre dire qu'il a permis que l'on passe de 1 à 2 milliards en termes de recettes.
Non, mais c'est un aveu d'impuissance. Puisque si, logiquement, les budgets, disons, le code minier peut permettre à ce que, parce que le recette passé, je crois, on était autour de 300 milliards, où il a parlé de 1 milliard, on a doublé autour de 2, mais l'impact devrait se sentir sur le plan de recettes au niveau global. Mais nous constatons que, d'une part, l'économie et les budgets de cette année basent encore toute sa substance sur les recettes minières. Et vous savez vous-même que le recette minière, c'est parmi, n'est-ce pas, des recettes qui sont sujettes à des fluctuations au niveau international. Donc nous continuons à avoir une économie qui est totalement flexible, qui est totalement, pas flexible, mais qui est totalement sensible et sujette à toute fluctuation du prix au niveau global. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui n'a pas été à mesure, n'est-ce pas, de pouvoir produire à travers vers d'autres secteurs des recettes substantielles pouvoir permettre à un accroissement du budget et, n'est-ce pas, permettre à ce que on puisse avoir des très bons rêves. On va constater par exemple que c'est un budget dont près de 40% ou 45% sont totalement affectés à la rémunération. Ce qui est, nous voulons mieux que le social s'améliore, mais lorsque vous essayez de voir la part de l'investissement, c'est totalement très significatif. Et donc, en tout cas, je suis pétré déçu de voir ces budgets devant moi et je crois que le Parlement va corriger cela.
Alors, honorable Mouindo, le Premier ministre Bruno Tshibala a parlé du contexte dans lequel ce budget a été élaboré. Il parle d'un budget élaboré dans un contexte particulier, caractérisé d'une part par l'organisation des élections et d'autre part par l'insécurité dans le Nord Kivu, le Kasaï et l'Ituri. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison?
Vous savez, nous ne pouvons pas ne pas admettre aujourd'hui qu'il y a de l'insécurité sur le territoire national. Mais nous avons toujours l'habitude de dire qu'on doit éviter de toujours cacher les recettes de l'État derrière des dépenses sécuritaires. Parce que c'est des fois comme si l'insécurité entretient ou favorise le détournement de beaucoup de recettes au niveau du pays. Je me dis, par exemple, lorsqu'on essaie de voir sur le plan global les contextes, parce que le budget de 2018, c'est un budget qui, n'est-ce pas, disons de 2019, c'est un budget qui, n'est-ce pas, va s'appliquer l'année prochaine. Logiquement, c'est ça. Et si nous essayons d'évaluer les phénomènes qui sont entrés ou qu'il a à relever, au Kasaï, aujourd'hui, moi je reviens, j'ai été au Kasaï, il y a quand même une accalmie. Et ça, c'est une bonne chose. Au niveau du Nord Kivu, oui, la situation est dramatique. Nous revenons d'une mission d'enquête. Vraiment, la situation est dramatique. Et là, l'État est totalement absent, malgré tout ce qui peut se raconter. Alors, le contexte, c'est quel contexte? Il veut, autrement dit, que la situation va rester telle que telle, que l'insécurité va persister au niveau du Nord Kivu, qu'il y aura encore l'insécurité au niveau du Kasaï, que partout où il a cité, il y aura de l'insécurité, ce qui fait qu'à 2019, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de facteurs qui permettront à ce que le budget soit colossal. Non! Voilà pourquoi je parle des navets d'impuissance. Et puis, est-ce que nous pouvons nous dire que le contexte est le même lorsque nous considérons que même le peu de recettes qui sont des fois, ou les dépenses qui sont, ou des recettes qui sont des fois allouées à l'État, sont subtilisées
à des dépassements totalement incalculables par des services que je vais énumérer, pas sur des dépassements par administration.
En parlant de ces dépassements, voilà, ça donne l'occasion que l'on revienne un peu au projet de loi portant reddition de comptes où le ministre des Finances a évoqué des dépassements budgétaires énormes. Par exemple, quand il parle de la présence de la République, il est à 185%, de la primature à 150,5%, des ministères des Affaires étrangères avec 210,4%, de la Défense nationale avec 181,7%. Ça donne un peu le vertige, tout ça.
Bien évidemment. Et c'est le contexte que le Premier ministre a dit que voilà, c'est ce contexte qui fait qu'il est dans l'incapacité de pouvoir mobiliser des recettes. Voilà pourquoi je dis que c'est un budget d'envers d'impuissance, puisqu'il est inacceptable. Imaginez-vous, par exemple, je vais vous prendre une petite ligne. Acquisition des terrains. Il y a eu dépassement de 57%. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de terrains de l'État sont spoliés, sont en train d'être vendus. Mais on nous dit qu'on a acheté beaucoup de terrains et que même cette ligne a été dépassée de 57%. Il en est de même des équipements à immobilier.
Honorable Moïno, souffrez que je vous arrête à ce niveau. Le temps de faire réagir l'honorable Crispin Goy et je reviens à vous tout à l'heure et également à Eric Tchikouma aussi. Honorable Crispin Goy, vous êtes député national et communicateur de la majorité présidentielle et aussi secrétaire général en charge de la politique du parti RUDEC. Vous avez suivi l'honorable Moïno qui parle d'une insulte en considérant ce rapport par rapport aux dimensions énormes de la RDC. Quelle est votre réaction?
Merci beaucoup, Alain. Avant toute chose, laissez-moi d'abord saluer toute la population de la ville de Mbujimayi, qui sont mes lecteurs dans le Kasaï oriental, ainsi que toute la population de la province de Lomami qui me suit en ce moment. Ce que nous devons dire d'abord avant toute chose, je voudrais un peu mettre le point sur le Z. Mettre le point sur le Z veut dire lorsque le projet de budget a été déposé, il devrait être vérifié sur le point forme. Alors, il a été vérifié sur le plan forme et quelques questions, quelques zones qui étaient sombres ont été éclairées. C'est la raison pour laquelle il a été déclaré recevable. Aujourd'hui, quand je vous parle, ce projet se trouve à la Commission économico-financière où il est en train d'être analysé de fond en comble, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour doter de notre pays d'un budget conséquent. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de l'insulte. Le Premier ministre et son gouvernement, ils ont présenté le budget, ils ont tenu compte des réalités en place, puisque personne ne va contester les réalités, celles selon lesquelles nous sommes en période électorale, et cette période électorale qui commence maintenant en 2018, va se poursuivre en 2019 puisqu'il y aura des élections au second degré en ce qui concerne les sénatoriales et les gouverneurs, sans oublier les conseillers communaux, les bourgmestres et les maires des villes, ainsi de suite. Donc, cette réalité, c'est une réalité incontestable. Ce qu'il a parlé de l'insécurité, personne ne va contester qu'à Béni, il y a de l'insécurité. Donc, le Premier ministre a parlé de réalités qui sont vivables. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que l'actuel budget et le projet qu'il a présenté de 10 353 millions qu'il a présenté aujourd'hui en francs congolais. Alors, 10 000 milliards en francs congolais, 353 millions. Par rapport au budget de l'an 2018, il y a eu une régression, puisque le budget 2018 était plus élevé. Il a justifié ça. Il a dit qu'il y a eu baisse des recettes de l'extérieur. C'est tout à fait normal qu'il y ait baisse dans l'ensemble. Et vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de chercher à recouvrer notre indépendance effective. Nous devons arrêter de dépendre de l'extérieur. Au fur et à mesure que nous évoluons, l'extérieur doit se mettre de côté et nous devons vivre de notre propre budget. Ça, c'est tout le monde qui connaît. Voilà que nous organisons les élections maintenant sans l'appui extérieur.
Honorable Crispin Goy, à ce niveau-là, est-ce que la RDC est en train de tendre vers une certaine autarcie?
Nous sommes en train de faire l'indépendance effective, la non-dépendance de l'extérieur qui veut vouloir nous dicter. Chaque jour, nous disons Nous, Congolais, nous voulons être ce que nous sommes et non pas ce que les autres veulent que nous soyons. Donc, nous tendons vers l'indépendance. La preuve est que nous sommes en train d'organiser les élections maintenant, sans l'appui extérieur. C'est-à-dire quoi? Même l'intervention extérieure dans le budget a tout à fait raison de réduire. Et nous avons même, nous tendons même à ce que nous puissions l'annuler pour que nous puissions vivre de notre propre budget. C'est ça l'indépendance effective. Nous n'allons pas en vouloir au Premier ministre pour cela. Mais quant aux autres détails, pourquoi malgré qu'il y a augmentation des coûts de minerais, mais le budget reste le même, c'est ce que nous sommes en train d'analyser, de décortiquer maintenant à la commission ECOFIN. S'il arrive qu'on repère d'autres éléments, nous serons obligés de modifier et de doter le pays d'une loi de finances correcte et potable, capable d'être consommée par les Congolais dans les bonnes conditions.
Honorable Crispin Goy, est-ce que vous croyez que ce budget pourrait être vu à la hausse à un certain moment, puisque tel que présenté, il n'a pas tenu compte de certains budgets provinciaux, étant donné que certaines assemblées provinciales sont fermées sur ordre du gouvernement?
Effectivement, c'est un point qui a été soulevé dans la salle de plénière, puisque le budget national, c'est l'ensemble du budget du gouvernement central et le budget des provinces. Effectivement, on a posé la question de savoir quels sont devenus le budget de ces autres provinces dont les assemblées provinciales ne sont pas opérationnelles. Je ne vais pas parler d'assemblées provinciales fermées. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas des actes qui ont fermé ces assemblées. Et vous connaissez vous-même d'ailleurs, constitutionnellement parlant, que le gouvernement central n'a pas le pouvoir de fermer les assemblées des élus. Les assemblées provinciales ne peuvent pas être fermées. Mais puisque le gouvernement nous dit qu'ils ont été empêchés de fonctionner ou de travailler pour raison de sécurité, chose que nous sommes en train de suivre de plus près pour qu'on laisse la liberté à ces assemblées de travailler, mais nous pensons qu'il y aura correction de ce budget à partir des assemblées provinciales. Et nous pensons aussi que les assemblées provinciales seront libérées pour se mettre au travail dans l'intérêt du peuple, d'autant plus que nous allons aux élections.
Honorable
nous ne pouvons pas aller aux élections avec les assemblées provinciales fermées. Que vont dire le peuple? Que vont dire les députés provinciaux à ce peuple?
Merci, honorable. Eric Tchikouma, vous êtes journaliste analyste économique et également directeur général du média en ligne Zoom Echo. Comment vous analysez ce projet de budget?
Merci beaucoup. Je pense que il est important aujourd'hui de reconnaître quand même les efforts qui ont été fournis par le gouvernement d'entrée de jeu en ce qui concerne ce budget. Il est équilibré, je pense que les deux députés nationaux l'ont dit ici, à 10 000 milliards 353 millions de dollars américains. Et ces montants par rapport au budget de l'année passée, il était équilibré aussi à environ 10 000 milliards 153 millions, quelque chose comme ça. Donc, en termes numéraires, il n'y a pas de grande différence entre les deux budgets. Mais la régression qui arrive à travers ces budgets, qui connaît ces budgets, est due au fait que le gouvernement congolais qui a élaboré ces projets du budget a réduit sensiblement, on peut même dire, de 89% le recette extérieure. Les recettes extérieures, comme vous le savez, il y a des engagements qui sont pris par des partenaires de l'État congolais et qui souvent ont du mal à être respectés. Comprenez que entre il y a un certain moment dans ce pays où on avait un budget de l'État qui était équilibré, 50% sur ressources propres, 50% sur ressources extérieures. Mais entre ces années-là, il y a une décennie et jusqu'aujourd'hui, où nous avons un budget qui représente en termes de ressources extérieures 11%, en tout cas, ça c'est une avancée que le Congolais doivent quand même apprécier.
Deux choses, Eric Tchikouma. Est-ce qu'en réduisant de 89%, comme vous dites, les recettes extérieures, la RDC ne sera pas asphyxiée à un certain moment? La deuxième chose, réduire de 89% au moment où on a du mal à mobiliser des recettes en interne, n'est-ce pas dangereux?
Mais ils ont réduit, mais nous constatons la mathématique qui est faite à l'intérieur de ce budget, c'est que les ressources propres ont dû compenser la différence des ressources extérieures qui ont été élaguées. De toute façon, à quoi ça sert d'inscrire ces recettes dans le budget alors qu'elles ne sont pas recouvrées? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien, parce que ces recettes arrivent en réalité en termes de dépenses. Les dépenses pour construire des routes, construire ceci ou cela. Mais lorsque cet argent ne tombe pas, à quoi ça sert de continuer à les inscrire dans nos budgets? Ça, c'est une question fondamentale à laquelle le Congolais doit savoir pourquoi le gouvernement a pris une telle mesure. Donc, je ne suis pas là pour soutenir le gouvernement, mais je suis en train d'analyser le fait. Donc, il y a un budget qui est construit à 89% sur ressources propres. Ça, c'est déjà une avancée.
C'est un acquis.
Ça, c'est un acquis. Donc, par rapport à des années où on était à concurrence de 50%. Alors, l'accroissement de ces recettes a été très substantiel dans ce budget 2019, simplement parce que il y a environ, le Premier ministre l'a dit du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, les recettes du budget général ont augmenté de 7,6%. Les recettes de budgets annexes, elles, ont baissé de 81%. Mais les recettes extérieures ont sensiblement baissé. Imaginez que en 2018, ces recettes étaient évaluées à 917 milliards et aujourd'hui, en 2019, pour le budget 2019, elles sont évaluées à 165 milliards. Donc, il y a une régression de 81,5%. Ça, c'est déjà beaucoup. Les recettes courantes ont augmenté de 25%. La DGI, les recettes que la DGI doit recouvrer ont augmenté de 46,8%, donc c'est pratiquement 47%. Les recettes de la DGRAD ont augmenté de 11,9%, celles de la DGDA à 3%. Imaginez un peu ce qui doit être fait. C'est vrai, il y a lieu de reconnaître aussi que ce budget n'est pas à la taille de l'ambition ou des ambitions du peuple congolais. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant là, quels sont les efforts à fournir au-delà du recouvrement de ces recettes? Faudrait-il attendre des miracles ou opérer de miracles pour que le Congolais, le budget de la RDC, la capacité, l'assiette fiscale du Congolais puisse exploser? Qu'on explose les recettes à 10 milliards, à 100 milliards de dollars?
Alors, vous avez suivi l'honorable Moindo faire observer qu'il n'y a jusque-là que le secteur minier qui continue à rester le secteur qui donne le plus de recettes. N'est-ce pas une faiblesse?
Mais dans un premier temps, c'est les recettes minières, disons, pour ce budget, sont les recettes minières et les recettes pétrolières qui portent en fait les recettes du budget général. Dans le cadre de ce budget 2019. Mais c'est aussi vrai, nous avons quoi? Qu'est-ce que nous produisons au-delà de mines? Qu'est-ce que nous produisons au-delà de l'exploitation pétrolière?
Merci.
L'industrie congolaise ne tourne pas. Nous avons quasiment pas une industrie qui produit. Nous n'avons pas une économie qui est diversifiée. Mais il faut partir de ces recettes pour avoir les ressources suffisantes afin de pouvoir diversifier l'économie. Voilà.
Voilà, merci Eric Chikuma, je reviens à vous. Honorable Paul Muindo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient d'Ouvira au Sud Kivu.
Amani Kassali Kassibe, depuis Ouvira au Sud Kivu. À mon humble avis, ce budget est abstrait, car il se remarque que rien ne se fonde sur des données réelles acquises et portées sur l'expérience. Tout est estimation, tout est fruit de l'imaginaire. Si la population est estimée à plus de 80 millions, quel est le chiffre budgétaire réservé pour la santé, l'habitation, l'éducation et le travail pour cette population? Il n'est pas étonnant que le budget de l'État congolais soit très inférieur au budget de l'université de Harvard aux États-Unis. États-Unis d'Amérique avec 26 milliards de dollars pour 20 000 carandais de ses étudiants. Ni le budget du ministère de la Santé de l'Afrique du Sud et 13 milliards de dollars pour une population de 52 millions d'habitants. Tout ceci démontre que l'État congolais est un État anarchique qui nécessite une totale remise en cause pour en faire un État responsable.
J'ajoute, honorable Mouindo, cette réaction d'Evariste Koulimouchi qui dit « Nos dirigeants ne trouvent-ils pas que le langage, la démocratie est devenu plus cher que le développement qu'ils nous tiennent aujourd'hui n'est alimenté et prémédité que par eux-mêmes pour raison de vouloir contourner les principes démocratiques en RDC ?»
Oui, je voudrais vraiment saluer l'analyse pertinente de l'auditeur Amani du Sud Kivu. Et dans ce qu'il a dit, il faut relever le fait que d'abord le budget, c'est une prévision. C'est ça le budget, c'est une prévision de recettes et de dépenses à exécuter. Et le gouvernement doit, par rapport, n'est-ce pas, à ses missions, je vais vous donner par exemple les missions, les 10 missions de l'État par rapport à ses gouvernements, assurer le bon fonctionnement de l'administration centrale, publique, assurer la défense du territoire national, maintenir l'ordre et la sécurité publique, promouvoir les affaires économiques, protéger l'environnement, la faune et la flore, garantir les logements et l'équipement collectif, assurer la santé de la population, réglementer la religion, la culture, le sport et le loisir, garantir l'enseignement et assurer la protection sociale et les affaires sociales. Les divisions que, logiquement, l'État est appelé, et le gouvernement actuel est appelé à relever par rapport, n'est-ce pas, à donc les grandes fonctions que l'État est appelé à réaliser par rapport au budget et qu'il est lui-même en train de prévoir. Alors, et il est inacceptable que l'on puisse considérer que les ambitions du gouvernement actuel soient réduites à cette hauteur-là. C'est vraiment inimaginable et je crois que le gouvernement actuel devrait, n'est-ce pas, être un gouvernement qui devait innover. Puisque on ne peut pas baser, n'est-ce pas, on ne peut pas baser tout un budget sur uniquement les recettes extérieures, comme je l'ai dit. Donc les recettes, disons minières, les recettes internes dans sa partie des recettes minières, mais également la partie pétrolière, donc les grandes structures, qui ne dépendent que de la situation économique au niveau international. Nous avons vu, par exemple, en Afrique, beaucoup de pays qui, n'est-ce pas, avaient cette logique-là, a connu de problèmes très sérieux. Alors, il est inacceptable. Il a parlé de budget d'Aravar et consorts. Effectivement, raison pour laquelle nous passons, qu'il est important, c'est qu'il y ait un gouvernement capable, n'est-ce pas, de pouvoir donner aux Congolais et donner au pays un budget qui soit à la dimension de la nation congolaise.
Mais
et
c'est possible. Honorable Mouindo, puisqu'il faut commencer quelque part, ne faudrait-il pas saluer cette impulsion du gouvernement qui réduit de 89% les recettes extérieures pour commencer petit à petit à travailler sur fonds propres?
Non, mais c'est bien bon de dire qu'on a réduit le recettes extérieures. Mais je vais vous dire une chose, il n'y a aucun gouvernement au monde qui vit dans l'autarcie. Donc il y a toujours une part, n'est-ce pas, de l'extérieur qui intervient. Et vous allez par exemple, même aux États-Unis, on vous dit que c'est une économie qui est aussi endettée. Et donc, nous sommes dans un monde totalement mondialisé où on ne peut pas se dire aujourd'hui que par le simple fait qu'on a réduit, encore sur le chiffre, je le dis bien, sur le chiffre, on dit on a réduit de 87% et tout, et que bon, c'est par cela qu'on doit se réjouir. Non, et je crois que nous avons intérêt à capitaliser tout effort qui peut amener à ce que notre pays puisse avancer de l'avant. Et si par l'extérieur, nous pouvons avoir des contribuables ou des pays qui peuvent, par exemple, nous dire que dans tel secteur, je prends par exemple le secteur des routes. Vous savez, par exemple, dans les domaines de la justice, nous avons beaucoup de palais de justice construits par les fonds extérieurs. Vous avez, par exemple, même aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, et c'était un bâtiment construit par les fonds extérieurs. Et donc, nous avons beaucoup de choses pour asseoir l'administration congolaise que nous avions eu sur base des forces extérieures. Alors, je me dis que oui, si l'ambition est d'augmenter la capacité interne, ça doit être réel. Mais comment nous pouvons nous dire que c'est réel? Dès lors que, lorsqu'on signale qu'il y a détournement de recettes, il y a
un monsieur, par exemple, un ministre ou je sais pas moi, un fonctionnaire ou n'importe qui aille à détourner les recettes et qu'on ne parvient pas, n'est-ce pas, à mettre la main sur ces deniers, je me dis que c'est du chimérique qu'on a
mais présenté. Le ministre des Finances a justifié, par exemple, les dépassements budgétaires pour l'exercice 2017 par des urgences et autres impératifs liés notamment à la marche du pays.
Mais ça a toujours été la même explication. Le pays ne devrait pas être géré par des urgences. Non, vous savez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses prévues dans le budget qui ne s'exécutent pas, puisque les lignes prévues sont consommées par d'autres fonctions.
Merci, honorable Crispin Goya, pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Elisa Mbaï, qui est membre depuis Kisangani à Magopi. Le nouveau premier ministre avait promis l'amélioration du social et l'organisation des bonnes élections. Je ne pense pas avec un budget de 6 milliards va résoudre les problèmes de la population congolaise. Un budget d'une équipe de football en Europe. Le premier ministre, lorsqu'il était à l'opposition, il critiquait chaque fois le budget qu'amenaient les autres. L'Assemblée nationale de la RDC n'exige plus son rôle de parler pour la population, mais plutôt pour l'intérêt de ses partis politiques. Si on avait une assemblée nationale responsable, ce budget ne devrait pas être réussi, car ça ne reflète pas la réalité par rapport aux besoins du pays.
Honorable Crispin Goy, j'ajoute cette réaction d'Alex Eko de Chikapa au Kasaï qui dit « Le constat est toujours le même, c'est que malgré le potentiel dont dispose le pays, nous sommes toujours incapables de transformer ce potentiel en véritable richesse pour ses citoyens. Quand le budget est en régression par le fait qu'au nom de la souveraineté, le gouvernement a renoncé aux recettes extérieures, est-ce donc à dire que dans ce cas, la souveraineté sert à plonger le pays dans la misère, honorable Crispin Goy ? »
Merci beaucoup, je vais saluer l'intervention de tous les compatriotes qui viennent d'intervenir en ce moment, mais tout en clarifiant un peu les choses. Vous savez que dans ce pays, on avait un budget de moins d'un milliard. Et aujourd'hui, nous sommes à 6 milliards de dollars, 10 000 milliards de francs congolais. C'est une progression. Nous devons aller progressivement. Nous ne pouvons pas courir très, très, très vite pour autant chercher à avoir les chiffres fantaisistes, comme je les entends auprès de certains candidats qui disent quand ils seront chefs de l'État, ils auront des budgets de 100 000 milliards. Ça, c'est la fantaisie. Donc, nous voulons avoir des budgets réalistes. Notre combat actuel est que, à l'exécution de ce budget, que cette exécution soit à 100%. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons obtenir une stabilité de telle manière que le budget prévu soit égal à l'exécution. Pendant que nous sommes en train de marcher, il ne faut pas que les gens s'imaginent que les conditions sociales vont s'améliorer avec le budget. Non, les conditions sociales ne vont pas s'améliorer avec le budget. Les conditions sociales vont s'améliorer avec le travail. Au fur et à mesure que tout le monde se mettra au travail, au fur et à mesure que chaque Congolais sera correct et juste, au fur et à mesure qu'il va cesser de détourner les deniers publics pour mettre dans sa poche, au fur et à mesure qu'il va empêcher celui qui veut frauder à la douane, c'est à ce moment-là que les conditions sociales vont s'améliorer et le budget va augmenter. Maintenant que nous sommes là, celui qui est là à charger des perceptions, il triche. Celui qui est là chargé de payer la douane, il fraude. Il faudrait une transformation totale et complète de la mentalité du peuple au fur et à mesure que nous évoluons.
Honorable Crispin Goy,
à tous nos amis, c'est donner le conseil, contribuer à la transformation de l'homme congolais afin que nous puissions obtenir les hommes intègres qui doivent laisser l'État congolais percevoir ce qu'il le doit afin de s'occuper du bien-être de tous.
Honorable Crispin Goy, est-ce que ce budget répond-il, selon vous, aux exigences, voire aux objectifs d'un pays émergent et la révolution de la modernité que vise la RDC?
La révolution de la modernité, c'est une décision prise, c'est un programme
qui doit se concrétiser dans un budget.
Qui est en train de se poursuivre, qui se concrétise dans le budget. C'est avec le même budget que ce projet est en train de s'exécuter la révolution de la modernité. C'est toujours avec le même budget. Au fur et à mesure que nous évoluons, le budget augmente, bien que cette fois-ci, il est réduit par le fait qu'on a réduit les recettes extérieures, ce qui je lui donne totalement raison, puisque ces recettes extérieures ne sont jamais venues à 100%. Ce sont les recettes qui nous permettent de subir le chantage, Il suffit tout simplement qu'on vous dise qu'on va vous donner. Maintenant, pour exécuter, on commence à vous faire chanter et nous nous retrouvons avec un budget qui est exécuté à moins de 50%. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons, au fur et à mesure que nous arrachons notre propre indépendance, au fur et à mesure que notre indépendance devient effective, au fur et à mesure que nous vivons de nous-mêmes, nous allons atteindre un budget réaliste qui permettra au peuple congolais de mieux vivre et d'être socialement bien.
Honorable Crispin Goy, ce budget sera appliqué l'année prochaine. Le 23 décembre, il y aura des élections. Est-ce que ce n'est pas un piège pour les dirigeants qui viendront après les élections?
Non, ce n'est pas un piège. Un piège pour quoi? Est-ce que vous connaissez ceux qui viendront et ceux qui ne viendront pas? Ce sont toujours les mêmes Congolais qui seront là. Ce sont les mêmes Congolais qui sont là. Il n'y aura pas des étrangers qui viendront. Ce sont toujours les Congolais. Et pourquoi préparer le piège? Puisque vous pouvez préparer le piège pour celui qui viendra et que vous revenez vous-même. Vous allez vous coincer. Donc il n'y a pas de piège.
Merci.
C'est tout simplement le réalisme sur lequel il faut compter. Mais en plus, il faut reconnaître que l'année 2018 a eu un grand
merci,
coup.
Merci,
les coûts, c'est les coûts électoraux.
Merci,
mais l'année 2019, il y aura seulement une partie des élections de deuxième degré qui va se faire.
Merci, honorable. Souffrez que je vous arrête à ce niveau, honorable Crispin Goy. Je reviens à vous. Eric Tchikouma, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient du Kassai central.
Nous n'arrivons pas à comprendre ce décalage entre les richesses qui regorgent la RDC et les budgets toujours maudits chaque année. À mon avis, même si ce projet de budget est déclaré recevable, c'est non seulement pour ne pas bloquer le bon fonctionnement des institutions du pays, mais aussi parce que les représentants du peuple, qui sont les députés, voient leurs intérêts. Et pourtant, les 26 provinces et 6 milliards, c'est de la poudre aux yeux. C'est d'ailleurs le budget d'une équipe de football sous votre ciel, comme l'avait soutenu un élu. La solution, à mon avis, reste 1. La maximisation des recettes dans tous les secteurs et 2. Un bon contrôle parlementaire des ressources financières, car la RDC perd beaucoup d'argent chaque année, l'argent qui entre dans les poches des individus. Ce budget sur papier ne répondra jamais aux attentes de la population, car certains secteurs clés, tels que la santé et l'éducation, n'ont pas été pris en considération. Et pourtant, la présidence et le Parlement s'étalent la part du lion.
J'ajoute cette réaction de Venance Amissi Malonga, qui nous écrit de Pougna dans la province du Maniema, qui lui estime que les gouvernants ont montré leurs limites en tout point. Eric Tchikouma.
Oui, je commence d'abord par répondre à la question de Tatou Kadia Mbouji, qui a dit oui,
le décalage entre les potentiels de la RDC et la modestité du budget.
Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces décalages. Premièrement, c'est l'assiette fiscale qui est petite. Il faut l'élargir. Deuxièmement, les recouvrements des recettes sont exposés au coulage. Il faut lutter contre ces coulages de recettes. Je pense que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance a parlé de entre 10 et 15 milliards de dollars. Bon, ce n'est pas pour rien. Donc, le système tel qu'érigé, la corruption qui est généralisée, fait en sorte, la fraude fiscale fait en sorte que toutes ces recettes soient minorées en termes au niveau du recouvrement.
Mais est-ce qu'il y a
troisième aspect,
est-ce qu'il y a suffisamment d'impulsion de votre point de vue pour mettre fin à ce coulage? Il y a eu beaucoup de conférences, de congrès, mais visiblement la situation ne change pas.
Pour que la situation change, il faudrait sanctionner. Il faut appliquer la sanction dans toute sa rigueur. Combien les députés, combien de membres du gouvernement ont été sanctionnés pour avoir détourné le denier public? Combien de directeurs généraux ont été arrêtés, jugés parce que ils ont fait occasionner la fraude fiscale ou le détournement? Il y en a pas. Je n'en connais pas. Je sais pas si le député qui est les deux députés qui sont dans ces studios peuvent nous donner plus de détails.
Troisième point,
je parlais de la pression fiscale qui est faible par rapport à la moyenne africaine. Donc, il faut relever le niveau du taux de la pression fiscale. Ensuite, les dépenses de l'État sont énormes. Il faut pouvoir le rationaliser.
Qui occasionne des dépassements budgétaires, comme on en a vu.
Justement, il faut les rationaliser. Et pour tout ça, je pense que le gouvernement en place a tenté de faire quelques efforts pour pouvoir régulariser la situation, mais on le prend comme tel, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, ils ont fait leur part, je pense que ceux qui viendront aussi faire leur part. Donc le plus grand défi pour ce gouvernement, et même le gouvernement qui va arriver, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, c'est de pouvoir diversifier l'économie nationale. Aussi, de définir un plan de développement ambitieux, lequel plan doit être fondé sur un modèle économique propre à nous, mais un modèle qui soit inspiré des modèles des autres pays qui ont émergé, notamment la Chine, l'Afrique du Sud, ainsi de suite, le Brésil. Donc, nous devons définir d'abord notre propre modèle de développement économique, ensuite, voir comment le matérialiser. Et puis, quelqu'un a parlé ici de la petitesse du budget. C'est vrai, le budget congolais, depuis toujours, n'a jamais été à la taille des ambitions de cette nation, à vocation de puissance économique mondiale, je le dis toujours. Nous, Congolais, nous devons constamment nous poser la question, combien je contribue au trésor public ? Nous sommes nombreux à travers le pays à vivre gratuitement, pour ne pas dire gracieusement, nous ne contribuons pas au trésor public. Contrairement à des pays que nous envions, nous disons ici que le Botswana a un budget d'autant, les États-Unis ont un budget d'autant, nous attendons tout de l'État. Mais qu'est-ce que nous donnons à l'État ? Parce que l'État, pour avoir le moyen de sa politique, les citoyens doivent contribuer.
Et le peu qui est donné disparaît dans certaines poches.
Justement, c'est dans les deux sens. Autant le peuple a une part de responsabilité, vous avez parlé ici de la pédagogie, autant le peuple a une part de responsabilité, autant les responsables, les dirigeants ont aussi la leur. Donc, je pense que pour prétendre avoir le budget de ceux que nous envions, nous devons arrêter de vivre gratuitement.
Merci.
Ça, c'est un problème. Et puis, ceux qui nous dirigent doivent accepter aussi de ne pas continuer à vivre gratuitement. Les députés doivent payer l'impôt professionnel sur leur rémunération. Le
Merci.
Gouvernement, les membres du gouvernement, les membres des institutions,
Merci,
tous
Eric.
Doivent contribuer au fonctionnement de l'État.
Merci, honorable Paul Moindo. Il faut déjà conclure pour vous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour finalement améliorer ce budget ? Vous avez suivi Eric Tshikuma faire deux propositions, diversifier l'économie et que la RDC se dote d'un plan de développement économique national propre à lui.
Oui, merci bien. D'abord, il faut préciser que le député national paye l'impôt professionnel sur le revenu. Et de deux, il faut aussi préciser que le budget de l'État peut améliorer le social. Il est possible que le social de la population soit amélioré à travers le budget. Nous le voyons par exemple en Angola, nous le voyons dans d'autres pays où l'État peut facilement assurer un courant acceptable, arranger les routes, faire à ce que l'administration par exemple de la santé soit accessible à tous, faire à ce que l'éducation soit accessible à tous. C'est parmi les facteurs importants.
De sorte que le citoyen peut être motivé à donner sa part
également. Et aujourd'hui, ce que nous vivons...
En guise de conclusion.
Pour conclure, ce que nous vivons aujourd'hui est le fait du système actuel qui est caractérisé par une corruption généralisée, qui est caractérisé par une intolérance de la justice,
Merci.
Qui est caractérisé par un laisser-aller. Et je crois que pour arriver à accroître le budget de l'État, Merci. Nous devons changer le système. Et
Merci.
Nous pensons que les élections vont répondre à cela.
Merci. Honorable Crispin Goy, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer ce budget ? Il faut changer de système, dit l'honorable Paul Moindo.
Tout est changeable et tout est améliorable. Avant que le peuple congolais puisse demander à l'État d'améliorer leurs conditions de vie, augmenter ou majorer le budget à la hauteur qu'ils veulent, il faudrait que d'abord le peuple congolais se demande « Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour cet État afin qu'il puisse améliorer son budget ? Est-ce que je contribue ? Est-ce que je suis en train dans le groupe de ceux qui sont en train de saigner ce même pays ou pas ? Je crois que le jour que tout le peuple congolais, chacun prendra conscience et s'occupera de la République
Merci.
Au lieu que la République s'occupe de lui, automatiquement le social va s'améliorer de soi.
Merci honorable Crispin Goy. Eric Tshikuma, conclusion.
Oui, je pense que j'ai déjà dit, en ce qui concerne le paiement des impôts, la contribution du citoyen vis-à-vis aux charges publiques, des charges publiques, c'est très important. Et nous allons suivre, continuer à suivre l'examen du budget au niveau du Parlement pour pouvoir apporter d'autres précisions.
Merci monsieur, cette émission est terminée. Bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.